Sur une place du centre de Bruxelles, la place Flaget, à Ixelles. Je ne sais pas si tu te souviens. Il y en a certains qui ont habité Bruxelles. Ici, la place Flaget, au plein centre de Bruxelles. Et j'y suis allé avec notre fille, Tamara. On avait que deux places gratuites, donc je m'y suis collé. Cirque Bouglione, en plein centre-ville. Et là, vous avez une photo de la place Flaget. Et Tamara avait 6-7 ans, toute mignonne, l'âge idéal pour le papa qui est le héros. Et nous sommes allés dans ce cirque et on a été accueillis par un clown à l'extérieur qui passait un plumeau sur les visages de tout le monde. C'était avant le Covid, hein, le plumeau. Et pour nous dérider un peu, pour nous dépoussiérer. Et ça marchait bien, tout le monde avait le sourire. Et puis il y avait des ouvreuses, des jeunes jolies filles qui nous plaçaient dans la salle sous le chapiteau. Et puis il y avait, je me souviens, un vendeur de cacahuètes en blouse, en cache-poussière comme on disait à Bruxelles, je crois, qui vendait des cacahuètes avec aussi le sourire. Et puis le spectacle commence. Et là, on s'aperçoit que le gars en tablier bleu qui vendait des cacahuètes était un merveilleux trapéziste. Et que la jeune ouvreuse, la jeune fille très jolie, était domptrice, je sais pas si ça se dit dompteuse, d'éléphants. Et que aussi le clown qui était à l'entrée avec son plumeau faisait rire 400 personnes. Et ce qui m'a frappé dans le spectacle, c'était cette coordination, cette organisation, mais aussi cette humilité dans l'excellence, dans l'efficacité. On avait l'impression que tout le monde était en service, à sa place. Dans ce service, il n'y avait pas de temps mort, il n'y avait pas une personne qui faisait tout et les autres qui regardaient. Non, tout le monde service. Et le spectacle était bon, le spectacle était de qualité, il était efficace. Et cela m'a fait penser à l'Église. L'Église, c'est pas un cirque, c'est pas un spectacle, mais c'est aussi un lieu de service où chacun peut trouver sa place, où chacun peut servir avec efficacité, avec les dons que Dieu lui donne, pour que l'Église puisse grandir et s'édifier. Il y a un texte magnifique dans Éphésiens qui nous dit « De lui, le corps tout entier, bien coordonné, s'élève. » De lui, de Jésus. Le chef, la base, la source de vie de l'Église. De lui, le corps tout entier, bien coordonné, s'élève, s'édifie, grandit dans l'amour. Ça, c'est l'Église. Et j'avais donné en fin novembre, je crois, une illustration pour parler de 1 Corinthiens 12, de ce castel bien connu en Catalogne, mais aussi dans le Béarn, ou dans le Pays Basque plutôt, et ces pyramides humaines de 4, 5, 6 étages qui peuvent aller jusqu'à 15 mètres de haut avec les costauds en bas, les mid-size au milieu, les plus légers en haut. Et j'avais pas parlé de toute cette foule en bas là. Ils sont pas en train de prendre des selfies, ils sont pas en train de louer le Seigneur les bras. Ils se mettent là pour prévenir les chutes, pour amortir les chutes. Ils font partie de l'équipe, là. Magnifique équipe pour ces pyramides humaines, ces Cola Carrelera. C'est du catalan. Mais imaginez que pour le cirque, comme pour les pyramides humaines, qu'un grain de sable vienne se placer dans ce bel édifice. Imaginez que le clown dans le cirque se prenne le melon et s'en va avec l'ouvreuse pour faire une carrière perso. Imaginez que le costaud du castel, en bas, celui qui tient tout, décide de faire cavalier seul, de se faire une pyramide humaine à lui tout seul. Et c'est ce qui se passe un petit peu dans l'église de Corinthe. Il y aurait comme un problème dans la vie des dons, dans la vie d'église et dans la vie des dons. On est en train de faire une série sur l'épître de Paul aux Corinthiens. Et nous sommes arrivés au chapitre 14. Et à l'église de Corinthe, il y a comme un problème, ce serait le problème d'amour. Et vous vous souvenez de cette histoire du sandwich dans 1 Corinthiens 12, au chapitre 12, il parle les dons pour servir. Ah ouais, Dieu donne ce qu'il ordonne, disait saint Augustin, il ordonne l'Église, il veut l'Église, et il donne ce qu'il ordonne, il donne les moyens de construire l'Église comme un témoin de son amour dans le monde. Et puis, mais au milieu, il y a au milieu du sandwich, Paul se sent inspiré par l'Esprit pour parler de l'amour, parce que les dons sans l'amour, ça marche pas. Et 1 Corinthiens 14, il nous reparle des dons, et cette fois des dons en question, et en particulier de dons. L'amour, toujours. L'amour au milieu. L'amour qui détermine, qui décide tout, qui permet à l'édifice de s'élever. Vous pouvez avoir tous les dons possibles et imaginables. La foi, l'enseignement, le service, l'encouragement, la libéralité, le soin des personnes, les paroles de connaissance, le don de la sagesse, le discernement, le don de rétablir les malades, d'évangéliser, le don du leadership, de la créativité artistique, de l'habileté manuelle, de l'hospitalité, et j'en passe, et des meilleurs. Si vous n'avez pas l'amour, vous êtes comme une cymbale qui résonne, vous êtes du vent, quoi. Vous faites du vent. Je fais du vent. Et puis, au chapitre 14, donc, deux dons spirituels en particulier. Donc, je l'ai dit, on fait une série, et on arrive, c'est l'épisode 13 de la série saison 1, il n'y en aura qu'une, 1 Corinthiens 14. Et donc, pour ceux qui nous rejoignent ce matin, le sujet est un petit peu particulier, mais on arrive au chapitre 14 et il faut en parler, et je pense que c'est pas inutile de parler de ces dons en question. L'avantage des séries, c'est d'annoncer un petit peu tout le conseil de Dieu, comme il est dit dans le livre des Actes. Annoncer tout le conseil de Dieu. Bon, on lit ensemble 1 Corinthiens 14, j'ai pris des extraits. Ainsi, recherchez avant tout l'amour. Là, c'est le lien avec 1 Corinthiens 13. Aspirez en outre aux manifestations de l'Esprit ou aux dons de l'Esprit et surtout au don de la prophétie, à prophétiser. Celui qui parle une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'Esprit, mais celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, les encourage et les réconforte. Celui qui parle dans une langue inconnue ne se fait du bien qu'à lui-même, mais celui qui prophétise permet à toute l'assemblée de grandir dans la foi. Je veux bien que vous sachiez tous parler dans les langues inconnues, mais je préférerais que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus utile que celui qui s'exprime dans une langue inconnue. Un autre extrait. Supposez, frères et sœurs, que je vienne chez vous et que je m'exprime exclusivement dans ces langues inconnues sans vous apporter aucune révélation, aucune connaissance nouvelle, aucune prophétie, aucun enseignement. Quel profit tireriez-vous de ma présence ? En effet, imaginez que l'Église se réunisse tout entière et que tous parlent des langues inconnues. Si des personnes non averties ou des incroyants surviennent, ne diront-ils pas que vous avez perdu la raison ? Si au contraire, tous prophétisent et qu'il entre un visiteur incroyant ou un homme quelconque, ne se trouvera-t-il pas repris par tous et exposé au jugement de tous ? Les secrets de son cœur seront mis à nu, alors il tombera sur sa face en adorant Dieu et s'écriera « Certainement, Dieu est présent ». Au milieu de vous. Quant à ceux qui prophétisent, que deux ou trois prennent la parole et que les autres jugent ce qu'ils disent. Si l'un des assistants reçoit une révélation pendant qu'un autre parle, celui qui a la parole doit se taire. Ainsi, vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle afin que tous soient instruits et stimulés dans leur foi, car les prophètes restent maîtres d'eux-mêmes. Dieu, en effet, n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, un Dieu de paix. Alors, vous l'avez entendu, il y a comme un problème avec l'exercice des dons à l'Église de Corinthe, et en particulier le don des langues. Et Paul essaye de faire passer un message.
Et si on entend bien ce message, il est bon, il n'est pas favorable au don des langues. Et il faut se rappeler que Paul est un rhétoricien, c'est-à-dire qu'il avance parfois en reculant et qu'il concède pour mieux affirmer « Je parle en langue plus que vous tous », dit-il, « Je ne veux pas que vous parliez, mais je veux bien que vous parliez tous en langue, mais il y a toujours un mais qui suit. Mais je préfère de loin que tous vous prophétisiez. » Alors de quoi parle-t-on ? Avec ces deux dons spirituels, ces charismata ou ces manifestations spirituelles. La prophétie. Alors c'est quoi la prophétie ? Alors pour parler de la prophétie, je fais appel à l'équipe. Je me souviens qu'un auteur allemand, Christian Schwartz, écrivait que c'est une aptitude qui permet d'apporter une parole inspirée par l'Esprit Saint dans une situation particulière. Ce n'est pas de la prédiction. Ce n'est pas de la devinette. On devine que quelqu'un a quelque chose là. On devine ce qui se passe dans la vie des gens. Non, c'est une parole qui vient à propos. Celui qui prophétise, exhorte. Celui qui prophétise, exhorte, édifie, console. Il donne quelques exemples, Christian Schwartz, de prophètes. Dans le Sadhu Sunar Singh, Thomas à Kempis, qui a écrit L'imitation de Jésus-Christ. Moi, je rajoutais Ralph Schalis, que j'ai rencontré deux, trois fois. Cet homme, il était prophète. Un pasteur américain disait « Une aptitude à révéler la vérité de la parole et de la proclamer d'une manière opportune et pertinente en vue de l'édification de la communauté ou d'un individu. » Et un pasteur belge, un ami à moi, aptitude particulière à parler sous l'inspiration divine pour dire des choses concrètes à un groupe ou à des individus ou à un individu dans un but particulier pour une situation particulière. Et donc, on retient des mots particuliers, paroles opportunes, paroles adéquates, paroles pertinentes, paroles qui vient à propos, au bon moment, inspirées par Dieu. Et puis, il y a le parler en langue, alors qui s'appelle aussi la glossolalie. Vous avez peut-être entendu parler, certainement, de cette question-là. Et encore une fois, on tombe sur 1 Corinthiens 14, c'est l'occasion d'en parler. Alors, définition, aptitude à parler des langues inconnues, non apprises pour édifier la communauté chrétienne. Bon, d'accord. Il faut savoir que je voudrais faire quelques remarques sur ce parler en langue. D'abord qu'il existe un précédent à la Pentecôte. Vous savez, dans le livre des Actes, les disciples, c'est la fondation de l'Église, les disciples reçoivent le Saint-Esprit et ils se mettent à parler des langues non apprises par eux, inconnues par eux, mais qui sont comprises par les gens qui sont là et qui viennent de Phrygie, des Phrygiens, qui viennent de Phénicie, qui viennent d'Égypte, et qui viennent de Perse, qui viennent de Libye, qui viennent de Crète. Tous les gens, là, comprennent dans leur langue, et le verset, ils les entendaient parler dans leur propre langue. C'est le parler en langue pentecôtiste, je veux dire de Pentecôte. Des langues inconnues et inintelligibles par celui qui les dit, mais reconnues et compréhensibles par ceux qui les reçoivent. C'est comme si je parlais un moment polonais, que j'ai jamais appris, même pas avec Duolingo, et que Mathias Kirsun me dit « Mais tu parles polonais !» et que c'est une parole qui édifie. Mais il semble qu'à partir de là, s'est développée toute une pratique. Certains parlent en langue comme dans une prière. Et ils semblent n'édifier qu'eux-mêmes, d'après 1 Corinthiens 14. Alors certains justifient cette pratique par le langage des anges. qui apparaît dans 1 Corinthiens 13. Si je parlais la langue des anges et que je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Mais là, il s'agit dans 1 Corinthiens 13, vous vous en souvenez, d'une sorte d'argument par l'absurde ou par l'excès. C'est comme quand il dit « si j'avais la foi pour déplacer les montagnes ». Et on a vu ensemble, enfin je l'ai dit la dernière fois, que déplacer les montagnes, ça sert pas à grand-chose. Que c'est une foi qui n'existe pas vraiment. C'est un petit peu si j'avais la foi pour déplacer les montagnes, mais bon, ça sert pas à grand chose. Si je n'ai pas d'amour, ça c'est tout l'argument. De la même manière, si je parlais le langage des anges, ne veut pas dire que le langage des anges existe. Et il faudrait pas sortir de ce verset, de ce passage, le verset en disant le langage des anges existe et donc on va le pratiquer. Non, ce serait tirer un verset hors de son contexte pour en faire un prétexte. Et d'ailleurs, le langage des anges, me semble-t-il, ressemble au nôtre. Gabriel, l'ange Gabriel à Noël, avec Zacharie et Marie, se fait bien comprendre. Bref, vous voyez ce que je voulais dire là-dessus. Et puis, entre nous, il faudrait souligner quelque chose d'important, que le parler en langue est un don particulier, ce n'est pas un signe obligatoire de la présence du Saint-Esprit dans la personne. On le dit, hélas, dans certains milieux, de moins en moins, mais quand même, on sent cette pression, si tu ne parles pas en langue, cela voudrait dire que tu n'as pas reçu l'Esprit et on te presse de vivre une seconde expérience après la conversion qu'on appelle erronément, me semble-t-il, le baptême du Saint-Esprit, et tu pourras parler en langue comme les vrais spirituels. J'ai vécu des réunions où je m'y attendais pas, mais où il y avait cette pression-là. Alors, avec tout le respect que je leur dois, il faut dénoncer ce genre de théologie d'une foi à deux vitesses. Les spirituels et les autres. Et c'est justement ce que Paul combat dans l'église de Corinthe. Un autre élément qui paraît, semble-t-il, intéressant par rapport au parler en langue, que c'est pas nouveau dans au premier siècle. Le parler en langue était présent, nous dit l'oncle Alfred Kuhn de l'église de la Bonne Nouvelle à Mulhouse ou Strasbourg, je sais plus, mais qui a écrit 150 livres, qui vient des églises de frères, et qui nous dit que cette pratique du parler en langue inconnue se passait aussi dans les cultes païens, en particulier dans les religions à mystère, donc des mystères qui sont accessibles seulement pour les initiés. Hein, donc ça, c'est un rite païen. Et c'était le cas pour le culte d'Apollon. Et il y avait plusieurs lieux de culte d'Apollon à Corinthe et à Delphes, un petit peu plus loin. Et donc, le parler en langue se pratiquait dans ces cultes, dans des moments d'extase communautaire. Ça n'avait rien de secret à l'époque. Ça, c'était pas un mystère. C'est bien connu. Et Alfred Kuhn répète, c'était même de notoriété publique. Parler en langue dans les cultes païens. C'est un peu troublant, n'est-ce pas? Et on peut se poser la question de savoir si les Corinthiens n'avaient pas repris les pratiques de ces cultes païens et les avaient christianisés. Paul veut pas trop les contredire, mais essaie gentiment de les rediriger. Le parler en langue, c'est bien, mais les messages de la part de Dieu, c'est mieux. Il me semble que c'est possible. Dernière chose sur les dons spirituels, nous avons la liste des dons spirituels dans plusieurs passages de la Bible, je les ai énumérés tout à l'heure. 1 Pierre 4, Éphésiens 4, 1 Corinthiens 12, Romains 12. Mais la Bible n'est pas un recueil de listes ni de règles. Et donc les dons spirituels qui apparaissent ne forment pas une liste exhaustive, ni même normative. Ce n'est pas parce que Ils parlaient en langue à Corinthe au 1er siècle, que nous devrions tous parler en langue à Cannes ou en France au 21e siècle. C'est ce que disait Henri Blocher, le doyen de la faculté, enfin le doyen honoraire maintenant de la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, là où est encore Marc et là où j'ai fait mes études aussi, à l'époque, en 88, quand je rédigeais ma confession de foi à la fin de mon master. Que les dons dépendent aussi des époques de l'histoire et qu'ils ne sont pas normatifs. Et puis, dernier mot, quand on lit tout 1 Corinthiens 14, au final, Paul n'encourage vraiment pas le don en langue. Mais plus que la définition, ce qui est important est de savoir ce que Paul en dit aux Corinthiens, et à travers ce qu'il en dit, lui, l'auteur inspiré des Écritures, on va découvrir un peu plus ce que Dieu est. Et ça me paraît important. Paul va mettre en avant certaines choses ou certaines priorités, les priorités de Dieu. Alors, on en a déjà parlé, la première de ces priorités de Dieu, c'est priorité à l'amour. Si je n'ai pas l'amour, si j'ai la foi pour déplacer les montagnes, si je parlais la langue des anges, si je donnais ma vie en martyr pour le bien des autres, si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui résonne, je suis du vent. Vanité, viduité, vacuité. Et puis, en deuxième, priorité à l'édification, à ce qui élève. Celui qui prophétise permet à toute l'assemblée de grandir dans la foi. Et ça revient au verset 3, au verset 4, au verset 12, au verset 17, au verset 19, au verset 26. Priorité à ce qui construit l'autre. Ça me rappelle les enfants. Les parents mettent la priorité à ce qui fait grandir l'enfant, à ce qui construit l'enfant. Pareil, dans l'Église, priorité à ce qui édifie. Notre logo de l'Église, c'est quatre verbes, et le quatrième verbe, c'est grandir. Accueillir, témoigner, servir, grandir. Voilà, je les ai tous. Grandir, ce qui fait grandir. Il y a un accent grave sur l'édification, sur la construction. Et puis, il y a priorité à la clarté dans la communication. Et là, on l'a pas lu, mais c'est dans le chapitre 14, Paul va prendre l'exemple, c'est verset 7. Voyez ce qui se passe pour les instruments de musique comme la flûte ou l'harpe. Comment reconnaîtrait-on la mélodie jouée sur l'un ou l'autre de ces instruments s'il ne rend pas de son distinct? Il en va de même pour vous. Comment saura-t-on ce que vous voulez dire si en utilisant ces langues inconnues, vous n'êtes... etc. Donc il prend l'exemple de ces instruments. Si c'est la cacophonie du mauvais son, littéralement, on va pas, si c'est pas distinct, on va pas comprendre, on va pas s'édifier. Priorité à la communication claire. Et tout à l'heure, Maryse a parlé de Néhémie. C'est excellent. On s'est pas concerté, mais dans la redécouverte de la loi, la redécouverte de la parole de Dieu qui les transforme, qui les mobilise, il la lise. Et je lis au verset 8 du chapitre 8, « Il lisait dans la loi de Dieu et expliquait au fur et à mesure, de façon posée et distincte, afin que chacun puisse comprendre ce qu'ils avaient lu. » Eh oui, Dieu est un Dieu, un communicant hors pair. Non seulement il communique, mais il se communique en Jésus-Christ, et il est dans la clarté de la communication. Et dans le Deutéronome, aussi, il est dit, ses commandements ne sont pas au-delà. On les comprend facilement. Et puis, dernière priorité, priorité au témoignage de l'Évangile. Et plusieurs fois, il est dit dans le passage d'1 Corinthiens 14, si un non-chrétien survient, si un visiteur survient, et que tous parlent dans les langues inconnues, ne dira-t-il pas « mais vous avez perdu la raison ?» Alors, sans développer, je veux dire, il y a une sensibilité de Dieu, une priorité de Dieu par rapport à ceux qui sont en recherche, à ceux qui marchent sur le chemin de la foi, à ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Ne rien faire pour obscurcir le message clair de l'Évangile, pour brouiller les pistes, pour embrouiller. C'est pour ça qu'on parle dans nos églises et nos églises libres d'éviter le patois de Canaan. Le Canaan, c'est le pays promis, et il y a un patois. Hein, ça veut dire le langage entre nous, le langage... Non, il faut un langage distinct, compréhensible, pour faire des ponts avec ceux qui nous entourent et pour leur apporter un message clair. Et puis, il y a une dernière priorité, c'est priorité à la paix. Et donc, il parle de ceux qui prophétisent, qui apportent un message, et il dit, quand il y en a un qui parle, ben l'autre se tait. Et s'il a quelque chose à dire, eh bien, il parle à tour de rôle, encore une fois, pour que ça soit distinct, pour que ça soit clair, pour qu'on parle pas tous en même temps, pour qu'on entende, pour qu'on s'édifie, pour que la communication soit claire. Et il termine en disant, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et j'aime beaucoup ce verset parce que qu'est-ce qu'on attend? Mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais d'ordre. Formez les rangs, en file indienne. Je ne veux voir qu'une seule tête, et pas la tienne. Non. Dieu, même si la création est ordonnée, Dieu n'est pas certainement pas un Dieu de désordre, mais il n'est pas non plus un Dieu d'ordre, mais un Dieu de paix, un Dieu d'harmonie, un Dieu de communication, un Dieu de douceur, on l'a chanté tout à l'heure. Il nous est dit aussi dans la parole que votre douceur soit connue de tous les hommes. Je termine avec quelques suggestions pratiques, encore une fois, sur les dons « et moi, et moi, et moi », comme disait Jacques Dutronc. Enfin, pas sur les dons, mais sur autre chose. Première, discerner les dons que Dieu, dans sa grâce, ou discerne. Allez, je m'adresse à toi personnellement. Que Dieu, dans sa grâce, t'a donné. Dans les études préliminaires pour notre synode des églises libres en mai-juin, à l'Ascension, il y a une étude sur les dons, 1 Corinthiens 12. Ça peut être l'occasion dans les groupes de maison, et je pense qu'à La Roquette et à Cannes aussi, on va en parler un petit peu. C'est peut-être l'occasion d'essayer ensemble de discerner les dons des uns et des autres. J'ai un livre ici de ce fameux Allemand Christian Schwarz, « Découvrez vos dons ». On pourrait peut-être par la suite essayer d'affiner avec des questionnaires. Découvre tes dons, parce que tu en as, parce que le Seigneur a pourvu, parce que le Seigneur donne ce qu'il ordonne. Et puis, deuxième, sers-toi de tes dons pour servir. 1 Pierre 4, 10, chacun a reçu un don de la part de Dieu, dans la grâce de Dieu, qu'il le mette au service des autres. Au service, rentre avec tes dons dans la peau d'un serviteur, dans la peau même de Jésus, le serviteur. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup, il faut se faire plaisir. Même au foot, on dit, ouais, l'entraîneur m'a dit qu'il fallait que je me fasse plaisir. On a bien compris que c'était pour un peu éliminer la pression. Se faire plaisir. Mais ça devient un petit peu un leitmotiv de notre société quand même. Alors, évidemment, les baby-boomers et ceux d'avant étaient des gens travail, et que c'est pas mal de retrouver un équilibre. Mais quand se faire plaisir devient un mode de vie, je me fais plaisir, on est dans une extrême où ça, on arrive à de l'égocentrisme. Et il me semble que servir les autres, Dieu et l'autre, et les autres, ça nous enlève une pression de se servir soi-même. Et quelque part, en servant Dieu et les autres, et moi j'y crois, vraiment, on finit par se faire plaisir dans ce service des autres, de se libérer de soi-même. Let's go. Rester en mouvement. Sers-toi de tes dons pour servir. J'aime bien cette phrase qui disait que sur un navire, sur un transatlantique, seuls les passagers s'ennuient. Ceux qui servent ne s'ennuient pas. Et à mon avis, vivent une vie pleine. Et puis, dernière suggestion pratique. Travailler au fruit de l'esprit. Vous savez, Galates 5, 22, car le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la patience, la bienveillance, la douceur, si je me souviens bien, la maîtrise de soi, la bonté, l'amour. Travailler à ça. Je ne sais pas comment on peut travailler au fruit de l'esprit, mais je pense que c'est retrouver ses racines en Dieu. Sonde-moi, ô Dieu. Retrouver l'amour de Dieu, s'exposer à l'amour de Dieu pour le faire fructifier dans notre vie. C'est l'œuvre de Dieu. Notre responsabilité, c'est de s'en approcher, de nous exposer à son amour pour le recevoir tout à nouveau. Ça, c'est tout le fruit de l'esprit de Galates 5, 22, c'est tout le caractère chrétien. Les dons, c'est l'œuvre, le service. Mais tout ça, c'est du vent, sans le fruit de l'esprit, sans l'amour, la patience, la douceur. On va ensemble cultiver le fruit de l'esprit. En dernier lieu, je reprends cette image que j'aime beaucoup, qui... par rapport au cirque, aux pyramides humaines, ajoute quelque chose, je trouve, c'est la grâce. Alors là, la grâce, bien tellement présente dans l'Église, la solidarité, l'unité, pour s'édifier, pour s'élever ensemble dans l'amour. Ça, c'est l'Église, un édifice qui s'élève dans l'amour. Veux-tu y être ? Amen.